Je vais commencer donc cette soirée avec vous par présenter un peu ces 3V. Pourquoi ces 3V s'est mis dans cette organisation de conférences téléphonées? Déjà, alors rapidement, hein, pour pas manger trop de temps sur le reste de la conférence, mais quand même pour resituer les choses. Donc ces 3V en 2006 s'est créé à partir d'une lutte contre une décharge qui était complètement absurde et qui était un enjeu politique financier et qui n'a pas eu lieu finalement dans le Javignan et l'Ayantais. Et donc à partir de là, on s'était dit bon d'accord, la problématique des déchets, mais ça ne suffit pas et c'est un problème beaucoup plus global. Donc à partir de là, on est vraiment devenu un mouvement d'éducation populaire et on s'est mis en charge d'organiser un certain nombre de choses, y compris de gérer une boutique bio pendant 2 ans, enfin d'organiser un certain nombre de choses pour que ainsi on puisse essayer d'évoluer et d'avoir toujours la possibilité de créer des lieux de réflexion, d'échange et de progression. Alors, surtout dans le domaine environnemental et social, et toujours en partenariat avec d'autres associations la plupart du temps. Donc c'est pour ça que les conférences qu'on a faites là, c'est fait avec des partenaires proches de ces 3V, mais qui aussi avec d'autres casquettes, soit syndicalistes, je pense à Magalis pour l'école avec Solidaire. Bon, Laurent, lui, est dans la collégiale, mais Laurent Grisel qui nous a parlé de l'économie, ça a été comme ça une manière, et c'est lui, avec lui, qu'on a lancé cette série de conférences. Et ces conférences, on les a faites parce que le confinement nous empêchait de faire nos réunions mensuelles, nos rencontres citoyennes à la salle Varda à Joigny et d'autres choses. Donc à partir de là, puisque on confinait nos idées, nous on a décidé d'essayer de continuer dans notre esprit de résister et de mettre en place ces conférences. Alors on a choisi ce mode-là plutôt que d'autres modes, Skype ou Zoom et tout ça, qui nous paraissait pas forcément accessible à tous. Même si là, effectivement, il faut avoir un forfait téléphone important pour pouvoir bénéficier de ces conférences, mais il nous semblait que sinon, c'était ne pas remplir notre mission d'essayer de toucher le plus grand nombre. Donc voilà, alors j'ai parlé de Laurent et de Magali, il y a Nicolas Tertion qui nous a parlé de la dette extractive, tout ça pour montrer la diversité de ce qu'on touche. Il y a eu le docteur Richard sur la santé, il y a eu sur le nucléaire. Catherine Fumet, il y a eu Sylvie Beltrami sur l'épandage de pesticides, et j'en oublie un, mais je ne me souviens plus duquel. Et aussi ce partenariat-là qu'on l'a mis avec Yonne l'autre. Et là, ce qu'on met en place, c'est bien avec le service, le serveur qui sert à Yonne l'autre. Voilà, donc ce mouvement, ce soir, un mouvement d'idées qui va être présenté, qui part du témoignage de personnes qui ont participé au mouvement des Gilets jaunes, et ils nous en diront davantage tout à l'heure, et puis qui vont nous parler de l'humain au cœur. Donc on verra aussi que ça, là aussi, c'est un mouvement d'idées qui s'inscrit dans une dynamique qu'on a souvent défendue à ces 3V, celle du CNR. Voilà. Alors je vais donner la parole à Eliane, parce qu'on l'a retrouvée depuis la dernière fois. Donc à toi, Eliane.
Bonsoir. Sur notre site C3V, maisoncitoyenne.com, vous trouverez en rediffusion toutes nos conférences précédentes ainsi que celle-ci. Aujourd'hui, soirée Gilets jaunes, costard cravate et urgence écologique. Cette 8e conférence, comme toujours entièrement faite main, bio et locale, est taillée sur mesure par Séverine, Christian et Hugues, Gilets jaunes de la première heure, grâce auxquels nous dépasserons largement les 80 km/h autorisés. Vous pourrez, comme toujours, faire vos commentaires ou poser vos questions sur notre adresse courriel c3vdebat@yonlautre.fr que notre animateur Kamel transmettra aux conférenciers. Si vous préférez réagir en direct, rédigez votre question ou le sens de votre intervention sur cette adresse et laissez votre numéro de téléphone pour que nous libérions votre ligne. Vous pouvez dès à présent laisser vos messages, ils pourront ainsi être lus et traités au cours de la conférence. Mesdames et messieurs, éteignez votre moteur, enfilez votre gilet jaune et installez-vous confortablement dans un chemin de traverse, car ce soir, c'est l'humain au cœur qui vous prendra au passage et vous emportera. Bonne soirée!
Bonsoir, c'est Séverine. Je suis mariée, j'ai deux enfants. Je n'étais pas politisée jusqu'en novembre 2018. Je n'ai jamais été syndiquée et je travaille dans la fonction publique territoriale.
Alors moi, c'est Christian, j'ai 63 ans, je suis mariée. J'ai deux enfants, c'est pas les mêmes que Séverine et que Hugues non plus d'ailleurs, et je pense qu'il pourra le confirmer. Je suis retraité de la fonction publique. Et puis j'ai été très longtemps syndicaliste et je me suis intéressé beaucoup à la politique aussi à un moment donné.
Bonjour, moi c'est Hugues, j'ai 64 ans, je suis marié, j'ai deux enfants, c'est pas original. Et je suis syndiqué et politisé, syndiqué depuis pratiquement toujours, politisé par intermittence. Et je suis retraité de la fonction publique, décidément, on s'est copié les uns les autres.
Donc, on prendra la parole toujours dans le même ordre, pour ne pas vous perdre. Donc, Séverine, Christian, puis Hugues. Tout d'abord, comment est-ce que nous sommes arrivés au Gilet jaune? Alors, pour ma part, je n'y étais pas le premier week-end, c'est-à-dire le samedi 17 novembre 2018. J'y suis allée le second week-end. Et j'y suis allée parce que le lundi 19 novembre, quand je suis sortie de chez moi pour aller travailler sur Sens et que j'ai vu l'ampleur des blocages autour du rond-point Rosa Parks, j'ai été effarée et je me suis dit qu'il se passait quelque chose d'assez grandiose. C'était le cas en plus partout en France, donc je me suis dit il faut que j'aille voir ces gens, il faut que je sache ce qui se passe. Quand j'y suis arrivée donc le deuxième week-end, j'y ai trouvé une énorme fraternité, beaucoup de partage, de la joie, un besoin d'échanger et une parole très libérée. Les discussions étaient déjà très nourries. Il y avait un consensus par rapport au pouvoir en place qui était jugé très très durement. Et il y avait également beaucoup d'espoir et de détermination. Voilà. Et ce qui m'a surprise également, c'est que c'était des gens plutôt de la classe moyenne, en pleine prise de conscience, plutôt que des gens réellement dans le besoin.
Alors moi, je suis par curiosité, dans un premier temps, curieux parce que j'ai toujours été curieux, et puis parce que je me disais quand même, c'est quand même assez étonnant de voir que d'un seul coup, les gens s'éveillent et vont dans la rue. On avait eu l'habitude des choses inverses plutôt, et donc je m'étais dit, je vais quand même aller voir quelles sont les revendications, quels sont les besoins qui vont être exprimés là. Alors bien sûr, on avait parlé de l'histoire de l'essence, mais je voulais voir au-delà de ça, s'il y avait encore d'autres choses à apprendre de ces gens-là dont j'ai fait évidemment partie, puisque à partir du moment où j'y suis allé, j'y suis revenu dès le lendemain. Et j'y ai passé mes journées et mes soirées en compagnie de gens, dans la fraternité.
Moi, j'y suis allé le premier jour. Alors, juste avant, on avait eu des réunions politiques et syndicales. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient quand même très réticents. Ils disaient, on avait eu des écrits syndicaux disant que ça allait être une pépinière de fachos et tout ça. Et moi, je me suis dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Puis finalement, j'y suis allé, même s'il a fallu pour ça arriver à 8h le matin. Et pour moi, c'est vraiment un exploit parce que je suis avant midi, en général, je suis pas debout. J'y suis allé et j'ai jamais regretté. Finalement, le premier jour, je suis resté au moins jusqu'à 18-19h et j'ai pas vu le temps passer parce que rapidement, on a discuté, c'était fraternel, c'était convivial, enfin fraternel, comme disait Séverine. Convivial, on a discuté facilement un peu de tout. Il y avait une diversité de situations sociales qui m'a quand même surpris. Il y avait beaucoup de publics, de privés, de petits artisans, de petits commerçants, tout ça. Il y a aussi un truc donc qui choquait un peu certains à gauche au début, c'est qu'il y avait une diversité aussi d'horizons politiques, mais ça n'a pas été du tout un obstacle puisqu'on avait en commun. On a très vite défini des objectifs communs et ça n'a pas du tout posé de problème, même si on devinait, suivant les réactions des uns et des autres, qui était qui, quoi. Voilà, donc une grande diversité et le mouvement a été lancé.
Donc on s'est très vite aperçu finalement que le prix de l'essence, c'était l'arbre qui cachait la forêt, puisque donc, comme je vous l'ai dit juste avant, les discussions étaient déjà très politiques, les inégalités sociales et fiscales étaient déjà au centre des conversations dès les premiers jours. La crise démocratique et la corruption des élus étaient dans toutes les bouches également. D'ailleurs, certaines élus se sont déplacées les premiers samedis sur les ronds-points, mais sans réussir à établir un véritable dialogue, ou alors c'était un véritable dialogue de sourds. Et déjà, dès les premières semaines, certains gilets jaunes évoquaient les jardins partagés, les problèmes alimentaires à venir. Certains parlaient déjà d'oligarchie.
Alors moi, ce que je voudrais ajouter à ça, c'est que j'ai entendu et ressenti au contact de ces gens-là un petit peu le reflet de mes lectures qui étaient récentes, puisque le mois précédent, le mouvement, il y a eu des ouvrages, trois ouvrages qui m'ont paru importants, qui sont sortis. Et ces trois ouvrages, il y avait La Caste de Laurent Mauduit. Alors, rien que par ce simple titre, on a compris qu'il dénonce le pouvoir de la prise de pouvoir donc par la haute fonction publique, dont Emmanuel Macron est issu d'ailleurs, et qui, dans une valse de pantouflage et de rétro-pantouflage, oubliait leur premier devoir qui était de servir les biens communs, les intérêts communs. Puis il y avait un deuxième ouvrage qui s'intitule toujours d'ailleurs les intouchables d'État de Vincent Jauvert, et qui révèle les secrets de nos hauts cadres de la Macronie aux rémunérations indécentes et qui menaillent souvent leurs compétences. Et puis ils s'arrangent pour que les règles fiscales soient au profit des intérêts privés des grands milliardaires. Et puis alors le dernier ouvrage, enfin je l'ai gardé en dernier, c'est Les Prédateurs. Vous savez, de Catherine Le Gall et de Denis Robert. C'est une véritable enquête. On sait comment travaille Denis Robert. Il démontre la véritable, la redoutable symbiose qui lie nos oligarques à des milliardaires. Et Denis Robert, qu'on retrouve bien sûr comme journaliste clé de médias, et puis comme cofondateur du C2NR, dont on va parler tout à l'heure.
Voilà. Moi, j'ai trouvé qu'on avait assez peu parlé du prix de l'essence, finalement, puisque c'était le point de départ. On en a parlé quand même, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui utilisent leur voiture tous les jours et ils étaient vraiment pris à la gorge. Moi, je me sentais un peu moins concerné, parce que comme je suis retraité, j'utilise la voiture quand j'en ai besoin, quoi. C'est pas vraiment, je suis pas pris à la gorge pour ça. Et très vite, on a parlé de notre quotidien, enfin, tout ce qui rendait le quotidien difficile. Et en fait, on en arrivait à la conclusion que c'était les dizaines d'années de libéralisme et de capitalisme. Mais c'est assez drôle parce que les gens disaient « moi, je fais pas de politique ». Et finalement, on n'a jamais tant parlé politique que sur les ronds-points, alors que les gens se défendaient de faire de la politique. Ils sont un peu comme Monsieur Jourdain qui fait de la prose sans s'en rendre compte. C'était tout à fait l'impression que j'ai eue. Et c'est vrai qu'on a fait des sacrés progrès... Même par rapport, et pourtant, moi j'ai des réunions politiques et syndicales, j'en ai quelques-unes, mais voilà, donc un grand pas en avant.
Donc finalement, les premières actions ont été mises en place très rapidement. Il y a eu tout d'abord ces fameux cahiers de doléances qui ont circulé sur les ronds-points, qui ont été remplis aussi bien par les gilets jaunes que par les automobilistes et avec grand plaisir d'ailleurs pour certains qui étaient heureux de pouvoir enfin s'exprimer. Il y a eu des courriers qui ont été envoyés aux élus et des rencontres avec ces mêmes élus, notamment donc des maires, la députée. Il y a eu forcément aussi des organisations de manifestations. On a rédigé, imprimé et distribué beaucoup de tracts. Hein. En un an, on a fait à peu près une douzaine de tracts qu'on a distribué dans les boîtes aux lettres du Sénonais. On a organisé des réunions publiques pour expliquer donc aux gens ce qu'était le fameux référendum d'initiative citoyenne et ce qu'il pouvait nous apporter. On a participé et on a même organisé pour certains des réunions dans le cadre du grand débat. On a organisé également des ateliers constituants, donc qui consistaient à réécrire la Constitution. On a procédé à des affichages, on a tenu des stands pour la signature du référendum d'initiative partagée pour les aéroports de Paris. Et on a fait venir également sur le rond-point des experts, notamment le représentant de la Ligue des droits de l'homme de Lyon et Nicolas Cerciron, donc ex-président du comité d'annulation de la dette du tiers-monde, en juin 2019. Voilà, donc ils sont venus nous parler, notamment Nicolas Cerciron est venu nous parler du chômage, de la dette, voilà, éclairer un petit peu nos lanternes sur ces sujets très d'actualité et qui nous mettent dedans aujourd'hui.
Oui, je pourrais rajouter simplement deux petites choses. Quand Séverine parle de courrier qui a été fait donc assez rapidement aux élus, c'est surtout une lettre qui a été faite le 14 décembre, donc vous voyez, moins d'un mois après le début du mouvement.
2018.
Pardon, 2018, qu'est-ce que je dis? Non, avant le 17. Le 17, c'était
14.
Voilà. Et donc là, c'est moins d'un mois après, donc on faisait un courrier donc aux députés. Et avec des revendications qui étaient vraiment très détaillées, qui étaient réfléchies, on y avait quand même quelques pages, et qui sont restées finalement sans réponse. Alors ça me rappelle simplement une remarque qui avait été faite par un sociologue et qui disait que les Gilets jaunes étaient des muets qui s'adressaient à des sourds. Ben, muets, on ne l'a pas été si longtemps que ça, et par contre, en face, ils ont été vraiment très sourds. Alors, comme ils étaient sourds, on a décidé de faire quelque chose d'assez original. Évidemment, comme on lit beaucoup, parce qu'on est quand même un tout petit peu intéressé par la lecture, et voilà. Et donc, on s'échange pas mal de choses. Et on avait voulu prendre en exemple Popovitch. Popovitch, c'est à l'origine un bassiste de Belgrade. Et qui a voulu s'attaquer, mais sans violence, donc, qui a voulu résister au pire des dictateurs de l'époque, au niveau de l'Europe, qui était le dictateur Milosevic. Et par toute une suite de combats, de résistance, il a réussi finalement à le faire tomber. Et on s'est dit, eh bien voilà, c'est un exemple à suivre, on n'est pas obligé de tomber dans la violence, et on a la possibilité par la dérision donc de faire tomber un dictateur, et puisque quelque part c'est un petit peu ce qu'on ressent aujourd'hui. Voilà.
Oui, donc dans les premières actions, on a quand même fait beaucoup de trash. Donc Séverine disait une douzaine en un an. Maintenant on en a une quinzaine en 18 mois. Là en ce moment on est en train d'en distribuer un qu'on a sorti sur les actionnaires, le fonctionnement, enfin le la mécanique des actionnaires et tout ça, comment ils nous plument et comment ils nous fonctionnent.
Et comment on peut leur résister.
Ouais, comment on peut leur résister, ouais, exactement. Et on a fait aussi des affiches. Alors là, je voudrais faire un petit merci particulier à JP pour l'affiche gilet jaune qu'on a faite, là, en forme de gilet jaune avec la croix noire qu'on a mis. Là, je me suis bien amusé à en coller dans tous les coins. Et j'en retrouve encore actuellement... de temps en temps, dans des campagnes assez éloignées, qui ne sont pas a priori des foyers révolutionnaires et tout ça. Et on en retrouve, ça fait toujours plaisir. À part ça, il y avait les fameux cahiers de doléances dont on a parlé, à propos notamment du RIC et du contenu qu'on voulait y mettre. Donc ça a bien marché, on est resté sur les ronds-points, pourtant on y a passé des heures, mais le temps passait vite, parce que les gens étaient vraiment branchés là-dessus, ça leur a bien plu. Et tout le monde mettait ses idées, et on voyait que ça faisait une mosaïque, donc ça a été très intéressant. Autrement, on a fait aussi beaucoup de manifs locales, qui étaient très sympas, parce que évidemment, les manifs étaient plus sympas quand elles étaient faites localement que quand c'était à Paris. À Paris, c'était beaucoup plus
violent,
ouais, c'était pas le même genre, quoi. Pas la même police non plus, d'ailleurs, mais, enfin bon, voilà.
Donc, suite à toutes ces actions, sont arrivés le Covid et son confinement. Mmh. Et donc là, ouais. Nous avons eu une pause dans le combat, donc plus de temps pour lire, réfléchir, formaliser. Là, on a vraiment pris conscience que le changement de cap était primordial et qu'on ne voulait surtout pas de retour à l'anormal, anormal en un seul mot. Donc la seule chose qu'on pouvait faire pendant cette période qui nous a privés de tout contact, tout échange, de toute liberté, c'était de formaliser les revendications des Gilets jaunes pour rassurer à la fois ceux qui n'imaginaient pas le jour d'après, comme on l'appelle, et faire taire tous ceux qui pensent sait que les Gilets jaunes n'avaient pas de revendications, hein, comme les médias qui font l'opinion se prenaient un malin plaisir à le répéter. Donc le programme politique, l'humain, qu'on a baptisé l'humain au cœur, est vraiment né pendant ce confinement, et on peut dire que c'est l'enfant légitime du Covid et du confinement.
Oui, je voudrais juste ajouter que c'est l'absence aussi de réponse de la part des pouvoirs par rapport aux attentes qu'on avait déjà exprimées. Et ça, c'est quelque chose qui nous a poussé justement à chercher à s'instruire, à chercher aussi des expertises auprès de personnes compétentes. Et en plus, on a vu naître petit à petit des mouvements aussi qui réfléchissaient comme nous. Et là, c'est quelque chose de très enrichissant et qui nous a finalement décidé à aller plus loin.
Alors oui, le confinement nous a fait prendre conscience encore avec plus d'acuité de l'absurdité du système capitaliste. Donc on était chacun chez soi. Bon, c'est vrai qu'au niveau des rapports sociaux, c'était, à part Internet, c'était pas terrible. Mais par contre, quel plaisir de plus entendre d'avions dans le ciel, de plus avoir toute cette trépidation d'un monde productiviste qui produit, on se demande pourquoi d'ailleurs, on se demande quoi sans se poser la question de l'utilité sociale de ce qu'on produit. Et donc il nous est apparu, au début on a échangé surtout des mails, et puis après on s'est dit que finalement c'était un peu lourd quand même, c'était un peu difficile, et qu'il fallait, confinement ou pas, qu'on se rencontre. Donc on a réussi à faire trois rencontres. De visu pour et là on avait vraiment bien travaillé en complément de ce qu'on avait fait par mail, et voilà, ben donc du coup est apparu notre en fait c'est pas le nôtre, puisque ce programme l'humain au cœur, c'est ce qu'on avait glané un peu partout sur les ronds-points depuis plus d'un an et demi.
Oui, nos inspirations en fait pour avoir en rédigeant ce programme politique, c'est évidemment donc tout ce qu'on a entendu sur les ronds-points hein, en 18 mois. C'est aussi la synthèse du vrai débat qui avait été organisé par Priscilla Ludowski, une gilet jaune médiatisée, en même temps que le fameux grand débat organisé par Emmanuel Macron. Bon, le vrai débat de Priscilla Ludowski a coûté bien moins cher. Hein. Et puis donc on a été influencé par évidemment les lectures que Christian vous évoquait tout à l'heure. Et j'aimerais rajouter aussi le livre de Nicolas Cerciron, Dette et extractivisme, qui nous a donné aussi beaucoup d'idées à inscrire dans ce programme. Nous, on a également été inspirés par notre vécu sur le terrain, et d'où des thèmes très spécifiques qu'on a dédiés aux médias, au syndicalisme et à la sécurité. Donc par rapport au contenu de ce programme, donc on peut dire que c'est un programme humaniste. On replace les femmes, les salariés, les citoyens, mais aussi l'urgence climatique au cœur des décisions. Le but, c'est vraiment de redonner du pouvoir de décision au peuple, de remplacer la concurrence par la coopération, le pillage par l'entraide, la surconsommation par la décroissance. Et dans ce programme, évidemment, le bien commun est soutenu, on fustige la dette et on répartit mieux les richesses. Voilà, c'est vraiment la devise liberté, égalité, fraternité qui est finalement au cœur de ce programme.
Oui, voilà, je pense qu'on a abordé un petit peu... Ah bah oui, là, j'ai pris la parole à la place de Christian.
C'est pas grave. Non, vas-y. D'entrée, il y a un thème quand même qu'on a voulu retenir. Ça a été celui de la place de la femme dans la société. C'est parce que moi, je veux insister sur ce point-là. Et en même temps, je voudrais honorer la mémoire de Séverine. Alors, pas Séverine, notre Séverine à nous, qui, elle, est bien vivante. Mais la Séverine qui est le pseudonyme de Caroline Rémy, qui a vécu entre 1855 et 1929. C'était une écrivaine, une journaliste, une libertaire. Elle a été une formidable féministe française. Et on doit aujourd'hui encore s'étonner qu'il faille mener les mêmes combats qu'elle pour la moitié de l'humanité. Et alors, c'est quelque chose quand même qui est troublant, parce que quand on lit tous les combats qu'elle a menés, on a l'impression d'être au présent. C'est au présent. Alors, nous, notre programme, puisque c'est un programme politique, ben moi, je vais vous dire, ben quand on aura le pouvoir, parce qu'on l'aura forcément à un moment donné, eh ben on rétablira tout simplement, définitivement, l'ordre des choses, et on redonnera à la femme sa vraie place. Et puis, il y a la démocratie participative qui a été retenue aussi, la préservation des biens communs et du milieu naturel, mais tout ça, ça va être évoqué par Séverine, et puis la relocalisation de l'économie et socialisation des moyens de production. C'est les thèmes forts, finalement, du programme. On en a oublié, mais je pense que Hugues pourra vous expliquer.
Oui, bah oui, on a parlé un peu de tout, du domaine social, économique, sociétal, environnemental, même si par exemple, bon, il y a des copains qui nous ont signalé qu'on n'avait pas beaucoup parlé du nucléaire, c'est vrai, mais en fait c'était presque exprès parce que on n'avait pas d'avis vraiment tranché là-dessus. Et ça dépend comment on remplace, évidemment on est tous d'accord pour dire qu'il faut se débarrasser du nucléaire, mais on ne voudrait pas non plus tomber dans des erreurs comme a pu connaître l'Allemagne qui nous a recollé des centrales qui fonctionnent aux énergies fossiles et finalement qui rendent le remède pire que le mal finalement. Donc on est resté un petit peu flou sur certains sujets, mais c'est pas... Et puis en fait il y avait tellement de sujets à aborder que ça ne peut pas être exhaustif.
Alors par rapport à la démocratie, hein, qui est quand même un des thèmes forts aussi évoqués par les Gilets jaunes et pas que d'ailleurs, je peux vous citer par exemple quelques mesures phares. Donc évidemment, on y retrouve la mise en place du référendum d'initiative citoyenne en toute matière. On y retrouve des élus irréprochables et sans privilèges, la réécriture de la Constitution, pour passer à une sixième république. On évoque également forcément le renforcement du service public avec des nationalisations ou socialisations de certains secteurs, des agences de contrôle indépendantes, la proximité et l'égalité d'accès aux services publics. Alors tout y passe, hein, l'éducation, la santé, la recherche, la culture, le sport, la justice, les EHPAD, les maisons de retraite, enfin voilà, ouais. Tout. Concernant la justice sociale et fiscale, donc bah forcément on a mentionné l'égalité des salaires entre les femmes et les hommes, la proportionnalité de l'impôt, la sanction des fraudeurs, on a rappelé qu'on souhaitait la retraite à 60 ans, on voudrait aussi rétablir la sécurité sociale du CNR et plus encore, et éventuellement d'ailleurs aussi annuler la dette illégitime, qui, selon Nicolas Cerciron en 2014, pourrait s'élever à cette époque-là à 59% quand même de notre dette. En termes d'écologie et de climat, donc on prône une agriculture respectueuse du vivant, du climat, des sols, de l'environnement et de la santé. On aimerait bien rentrer dans la décroissance des biens matériels. On voudrait aussi des relocalisations et des circuits courts. En ce qui concerne les médias, donc là, on réclame immédiatement l'expulsion des milliardaires, l'inscription de l'indépendance des médias dans la Constitution, la protection des sources et des lanceurs d'alerte, et entre autres également la fin de l'agression publicitaire. Pour ce qui concerne les syndicats, on souhaiterait une formation et une adhésion obligatoire pour tous, et la possibilité aussi d'instaurer des référendums d'initiatives syndicaux qui seraient basés sur le même fonctionnement que le référendum d'initiative citoyenne, mais donc là, au sein des entreprises. En ce qui concerne la sécurité, on réclame la fin de l'IGPN, la police de proximité en lieu et place des fameuses brigades, les BAC, anticriminalité. L'institution d'un droit de grève pour les militaires, des forces de police et de gendarmerie qui seraient au service de la sécurité des citoyens. Et puis, on voudrait aussi que cette vidéosurveillance arrête de croître.
Et d'embellir.
et d'embellir. Et enfin, en termes de politique extérieure, on voudrait une Union européenne des peuples, la fin des paradis fiscaux, on voudrait développer des coopérations, et arrêter, entre autres aussi, d'écraser les pays du Sud. Voilà, donc comme le disait Christian, c'est un programme qui est imparfait, mais il a le mérite. Et donc, l'objectif, c'est, enfin, les objectifs, hein, c'est de rassembler un maximum de gens autour d'un socle commun qui pourrait être ce programme. C'est de rassembler tous ceux qui ne veulent pas un retour à la normale et au monde d'avant, tous ceux qui veulent sortir du libéralisme et proposer une nouvelle organisation sociétale.
Est-ce qu'on pourrait... Il y a quelque chose quand même d'assez étonnant encore à notre époque et qui est vraiment... qui a un visage vraiment très, très désagréable. C'est le fait des pouvoirs de contrôle en France. Quelle que soit la fonction publique, quel que soit le secteur d'activité, on a des systèmes d'inspection qui sont propres à chacune des formations des fonctions publiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on voudrait supprimer parce qu'on considère que c'est le citoyen, les citoyens qui doivent décider des suites à donner lorsque des affaires touchent tel ou tel secteur du service public. Il n'est pas normal, par exemple, que l'IGPN soit seul à décider des sanctions qu'il y a à faire, à mener, et s'il y a suite à donner. Il n'est pas normal que l'ordre des médecins statue. On sait l'origine de l'ordre des médecins, la période d'origine. Tout ça, c'est des choses qui sont un peu dépassées, qui sont ragardes et en tout cas qui ne correspondent pas du tout à l'esprit démocratique tel que doit l'avoir notre fonction publique. Et je pense que c'est aussi bon pour le citoyen que pour le fonctionnaire de savoir que c'est une force indépendante qui donne, qui étudie et qui donne son avis pour d'éventuelles mesures à prendre. Voilà.
Voilà, nos objectifs, c'est d'avoir une base avec ce programme, une base solide qui est donc ancrée sur un programme pour le monde d'après, puisque on est nombreux à parler du monde d'après. Alors évidemment, on n'est pas les seuls, on n'est pas les premiers, on n'est pas les derniers. Il y a beaucoup d'initiatives en ce moment qui se mènent. Il y a des gens un peu partout en France qui ont dû faire un peu comme nous et tout. Après, il faudra fédérer tout ça et puis mettre ce qu'il y a en commun. C'est pour fédérer largement, enfin de mon point de vue, les antilibéraux, anticapitalistes. Largement, je dis bien quand même, parce que là, je pense qu'il y a urgence. On est face à un système qui est libéral-capitaliste, qui a absolument rien compris à la crise sanitaire. Et pourtant, c'était un exemple vraiment frappant de la dérive, enfin de la déliquescence de ce système. Et moi, je serais vraiment pour une fédération très large des anti-libéraux et des anticapitalistes. Et pour le rétablissement de la souveraineté. Le mot souverainisme, moi, ça ne me fait pas peur du tout, au contraire.
Donc ce programme, il a déjà été largement diffusé. On l'a diffusé notamment à tous les présidents des groupes politiques, chez les députés, les sénateurs. On l'a envoyé également à quelques personnalités politiques, aux fédérations de syndicats. On a même osé l'envoyer au MEDEF, à plusieurs associations et collectifs, à des médias, des journalistes, des groupes de gilets jaunes évidemment et certains gilets jaunes médiatisés. On l'a envoyé au président de toutes les associations des maires ruraux de France. À des experts comme des philosophes, des sociologues, des écrivains, des avocats. On l'a envoyé également à des artistes et au Conseil national de la Nouvelle Résistance.
Alors, on a aussi eu la chance de pouvoir côtoyer des gens du C3V. Donc ça, c'est aussi une manière de communiquer. Et donc, on en profite pour vous remercier, en tout cas.
Oui, voilà, oui.
Au niveau des retours, on en a eu quelques-uns, notamment, on a eu un président de l'association des maires ruraux du Doubs qui n'a pas de temps à perdre avec des citoyens qui sont dans l'échange et la reconstruction. Donc ça c'est un petit peu dommage. En revanche, on a eu beaucoup de retours positifs et intéressés. Et notamment celui de Pablo Servigne, qui est membre d'ailleurs du Conseil national de la Nouvelle Résistance et qui nous a indiqué qu'il allait partager ce travail avec les autres membres.
C'est intéressant parce que finalement, on s'aperçoit que quasiment au même moment, hein, à quelques semaines près, il y a beaucoup de mouvements comme ça qui ont eu envie de concrétiser des idées et qui ont envie de toute façon, non pas de se démarquer, mais finalement de réfléchir en commun. Et c'est à espérer que tout cela, ça soit finalement mené ensemble, hein, qu'on arrive à mener ensemble un combat. C'est pas une question d'ego, c'est bien une question de conception de la société qui doit complètement basculer sur un autre mode.
Voilà, oui, ben moi je voulais dire dans les réactions qu'on a eues, ben c'est surtout bon, Christian et Séverine qui s'en sont occupés, mais on a vu quand même que les maires qui répondaient, enfin par exemple dans le Doubs, là, on sent quand même qu'il y a des élus, ils n'ont pas envie de se faire remarquer, ils n'ont pas envie de se faire mal voir du préfet, ni tout ça. Alors, pour faire bien, quand il y a eu le président des maires ruraux du Doubs qui a dit qu'il n'avait pas de temps à perdre, alors il y en a d'autres qui ont embrayé derrière, qui ont répété mot pour mot. Oui, Steph, on n'a pas de temps à perdre et tout. Enfin, mais bon, dans l'ensemble, il y a quand même eu des réactions intéressantes. C'est encourageant. Bon, il y a eu des réactions de pure forme, hein, des gens, nous sommes très intéressés, enfin, la langue de bois politicarde habituelle de certains qui disent nous allons étudier ça de très près, puis dans un an, on n'aura pas de nouvelles, on se doute bien, enfin, on se devine. Hein. Faut pas non plus être mauvaise langue, on leur donne le bénéfice du doute. Voilà.
Donc, tout ça pour vous dire que nous avons quand même à la fois des espoirs, mais aussi des craintes. Moi personnellement, mes craintes, c'est toutes ces privations de liberté, cette surveillance des populations. On a l'impression qu'on se dirige quand même tout droit vers un monde orwellien. Pour ceux qui ont lu 1984, ils sauront de quoi je parle. La crise sociale, économique et économique, pardon, qui arrive, nous fait peur. La hausse des violences, du racisme, le clash écologique qui nous attend, tout ça, c'est vrai que c'est pas très rassurant. Mais à côté de ça, on a quand même de bons espoirs. Moi, personnellement, le fait d'avoir participé au Gilet jaune, je peux affirmer que c'est la plus grosse formation de ma vie. J'ai plus appris sur le monde qui m'entoure en 18 mois qu'en 42 ans. Et grâce à ce mouvement, donc ma vision du monde est différente. J'ai changé mes habitudes de consommation, hein, aussi bien concernant les biens que l'alimentation. Et cette prise de conscience que j'ai eue, je pense qu'elle est en train de prendre aussi collectivement en ce moment. Et je pense qu'elle a été accélérée suite à la crise sanitaire et au confinement. Donc ça, c'est un espoir que la population se réveille enfin et prennent conscience du monde qui l'entoure et de ce que certains veulent en faire. Mon espoir aussi, c'est qu'on puisse mettre en place, alors peut-être pas forcément notre programme, mais quelque chose qui ressemblerait pour accéder à ce qu'on appelle des jours heureux, et très à la mode en ce moment. Et surtout, accéder à des jours heureux, mais en assurer leur non-remise en cause. J'aimerais aussi qu'on puisse savoir conjuguer le verbe être plutôt que le verbe avoir, que le respect, les liens, la tolérance et l'éducation reprennent le dessus. Et j'en profite pour appeler donc tous les résistants qui nous écoutent ce soir à investir les prochaines échéances électorales, notamment les présidentielles et les législatives. Et j'appelle tous les résistants à créer et à intégrer donc des comités locaux du Conseil national de la nouvelle résistance qui vient d'être créé là récemment et dont on va vous reparler tout de suite après.
Alors dans ce que disait Séverine, elle a cité dans ses craintes 1984, c'est aussi un ouvrage donc que j'ai lu comme plein d'autres. C'est vrai, c'est quelque chose qui est assez troublant à lire. Parce qu'on y fait forcément un parallèle avec ce qu'on est en train de vivre. Je cite une phrase, on parle là de désordre politique et des dangers de manipulation de la pensée. Alors je ne sais pas si vous, ça vous titille un petit peu, mais là on sent bien quand même quelque part qu'il y a un réalisme de ce qu'on vit en ce moment. Et donc, il y avait aussi, dans mes craintes, les ouvrages qu'on avait cités tout à l'heure. C'est marrant parce que finalement, dedans, il y a à la fois des choses qui sont terribles, qui nous sont révélées, aussi bien dans le livre de Cerciron que dans ceux des autres ouvrages, la caste, etc. Et en même temps, ils ont eu l'intelligence de nous apporter un tout petit peu d'espoir. Et donc, on peut penser que finalement, tout ce qui est loi liberticide, tout ce qui est censure, tout ce qui est dette qu'on est en train de nous préparer, tout ce qui est l'appui médiatique d'État, ce sont des choses qui vont finalement un jour s'envoler. Et parce qu'on aura eu suffisamment l'esprit de résistance et qu'on aura mené le combat tous ensemble. Il faut absolument qu'on retrouve les valeurs qui sont de notre République. Il y a quand même chez nous, dans notre histoire, il y a quand même les droits de l'homme, il y a quand même aussi cette espèce de terminologie qui semble désuète aujourd'hui, mais qui était notre acclamation ternaire, la liberté, l'égalité, la fraternité. Puis je voudrais terminer juste pour rappeler simplement ce que disait Stéphane Hessel. Hein, n'oubliez pas Stéphane Hessel, que notre président Hollande avait osé, lui qui est dans la mouvance des hauts fonctionnaires, qui avait osé quand même lui rendre hommage dans la cour des Invalides. Moi, je suis un petit peu choqué parce que Stéphane Hessel titrait son ouvrage « Indignez-vous ». Et je pense que là, il est temps qu'on s'indigne, il est temps qu'on réclame quelque chose qui s'appelle la démocratie. Voilà.
Voilà, ben moi, j'aurais plus quand même, parce que je pense que ce mouvement qui continue d'ailleurs, parce qu'on en parle des fois, un mouvement qui continue à changer, mais il continue sous d'autres, a contribué à amplifier la prise de conscience de beaucoup de gens depuis le 17 novembre. En plus, il faut se replacer un peu, j'ai envie de me replacer dans le contexte de ce qui se passait, de ce qu'on vivait juste avant le mouvement des Gilets jaunes. On sortait quand même d'une série de défaites. Il y avait eu notamment l'élection de Macron. Moi, ça a été vraiment... Pourtant, je suis d'un naturel optimiste. Mais alors là, voir ce mec-là, qui était l'ancien ministre des Finances, qui insultait déjà les salariés quand il était ministre, qui se fait élire 66% des voix, je me dis, ça y est, je me suis dit, on va s'en prendre plein la tronche. Après, il y avait eu... d'ailleurs, ça n'a pas loupé. On a eu la suite des lois travail qui avaient commencé sous Hollande, qui ont continué... avec la loi El Khomri, qui en fait c'était la loi Macron, quoi. Comme il est modeste, il n'avait pas voulu endosser la paternité de cette loi, on le connaît. Il y avait la casse de la SNCF, vraiment en présentant les cheminots comme des feignants, des nantis et tout le bazar qu'ils utilisent à chaque fois. Ils veulent casser un service public. Et à côté de ça, l'opposition était carrément tétanisée ou opportuniste. Et il y en avait une partie, notamment au PS et chez les Républicains, qui se sont dépêchés de rallier la République en marche parce que ça faisait bien, que c'était le truc du moment. Ouais, et j'ai quand même l'espoir que ce mouvement, ça a été un coin qui a été mis dans la porte du libéralisme. Et eux, ils pensaient que tout allait bien se passer parce que c'est vrai que pour eux, ils ont quand même enregistré pas mal de victoires depuis 2017. Et là, ça a été vraiment un problème. On peut voir à la violence des forces de l'ordre, donc les ordres qu'ils ont reçus pour vraiment réprimer ce mouvement-là. C'est à ça qu'on voit qu'un mouvement les gêne vraiment. Que sinon, quand c'est un mouvement qui vise tout le monde, on n'est pas tellement... Alors évidemment, moi, je ne suis pas quand même non plus béat. Je pense que dans mes craintes, moi, la puissance financière et médiatique de ceux d'en haut parviennent une fois de plus à étouffer l'espoir naissant. Mais bon, je pense quand même que toutes leurs vieux artifices qu'ils utilisent, notamment au niveau médiatique, ça commence un petit peu à s'effilocher. Il va falloir un peu qu'ils se renouvellent, mais enfin bon, on peut compter sur eux là-dessus. Mais je pense que malgré tout, la roue de l'histoire tourne quand même plutôt dans notre sens. Et que le libéralisme et le capitalisme, bon, alors tourner la page, quoi, une bonne fois. Voilà.
Et puis ce qui fait aussi qu'on a, on garde l'espoir, c'est que donc très récemment, le Conseil national de la nouvelle résistance a été créé. Enfin, des experts et des personnalités, pour certaines médiatisées, prennent le taureau par les cornes, après diverses tribunes et prises de parole qui ont eu lieu pendant le confinement. Enfin, des gens entrent dans l'action et créent un conseil qui, on le pense, va pouvoir apporter de belles luttes très, très prochainement. Donc ce Conseil national de la nouvelle résistance, il est composé de 10 hommes et 10 femmes, hein, donc la parité. Et dedans, on peut retrouver Anne Beaumanoir, qui est une résistante de
97 ans.
97 ans. Il y a également Denis Robert, qui est journaliste aux médias et qui est également écrivain. Gilles Perret, réalisateur, il a notamment réalisé « Je veux du soleil » avec François Ruffin pour rendre hommage aux Gilets jaunes. On peut y retrouver également Gérard Mordilla, cinéaste, ouais, écrivain, des comédiens, des médecins, des infirmières, politologues, professeurs, économistes, éditeurs. Donc ce moment est vraiment très intéressant. Ils ont fait d'ailleurs une déclaration le 27 mai. Et quand on a lu cette déclaration, on y a trouvé un étrange écho à notre programme. Donc, il rentre moins dans le détail que nous, mais on est exactement sur les mêmes problématiques et sur les mêmes objectifs.
Ils nous ont copié, quoi.
Voilà, c'est ça, ils nous ont copié. ils ont également sorti un livre qui est gratuit et que vous pouvez trouver au format PDF sur Internet. Il s'appelle « Résistons ensemble pour que renaissent des jours heureux ». Et le 27 juin prochain, donc dans une semaine, ils organisent des pique-niques résistants, donc dans le but de créer des comités locaux, dont je vous parlais tout à l'heure. Et sur le Sénonais, nous avons rendez-vous à 11h30 dans la plaine Chambertrand, près du practice de golf, derrière le barrage, donc à Sens, pour répondre à cette invitation, donc de créer des comités locaux via ces pique-niques résistants. Voilà, et vous pouvez retrouver le CNNR sur leur page Facebook et sur le site internet c2nr.fr.
Je voudrais juste rajouter une dernière petite chose. Si, j'exagère un peu, mais quand même c'est très émouvant. C'est le témoignage, c'est l'introduction qui est faite par Claude Alfandéry, 98 ans, le monsieur. Le grand monsieur, un ancien résistant.
Je me sens presque.
Et on se sent humble à côté, et on se dit, si lui cherche à résister encore à son âge, on a le devoir de le faire aussi, nous, pour nos enfants.
Voilà, bon, je peux plus rien rajouter après ça. Je pense que Christian, là, il
a fait fort.
Coaché.
Voilà, donc juste pour terminer quand même. Aujourd'hui, donc, nous sommes le 18 juin, on a été introduit avec le fameux appel du 18 juin 1940, donc on voulait y faire écho et on voulait vraiment aujourd'hui faire appel à tous les résistants de ce libéralisme qui est en train de nous emmener droit dans le mur, créer des comités, discuter, faites des actions. Il faut absolument que tous ensemble, on se regroupe, qu'on discute et qu'on mette des actions en place pour résister à ce monde qui n'est pas le nôtre, dont nous ne voulons pas.
Mais alors, les Gilets jaunes, bon, Claude, hein, j'interviens, les Gilets jaunes n'ont pas tous eu cette évolution-là. C'est vraiment propre à vous, sur Sens, ou est-ce que c'est un mouvement général à travers les Gilets jaunes en France?
Alors, quand vous dites qu'ils n'ont pas eu tous la même évolution par rapport au Conseil national de la nouvelle résistance?
Voilà, c'est ça.
C'est vraiment récent, hein, c'est en train d'être en place, je dirais pour le coup, sans nous vanter, qu'on a été très réactifs. Et on espère que les Gilets jaunes vont entrer dans cette mouvance-là, mais c'est vraiment tout récent. Donc je ne peux pas vous dire comment ça va évoluer. En tout cas, on espère que ça va évoluer dans ce sens-là.
En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que oui, personne ne réagit de la même manière, bien sûr. On peut même avoir des sentiments qui peuvent paraître antagonistes, mais en fait, c'est au travers de la discussion qu'on a réellement avec tous les gilets jaunes, entre tous les gilets jaunes, quelle que soit son origine, ses opinions, etc. Il existe ça quand même. Elle existe, cette fraternité, cette envie de discuter, cette envie d'échanger. Et donc, oui, bien sûr, on n'a pas tous la même manière d'évoluer, mais tout le monde est utile au sein des Gilets jaunes. Tout le monde a besoin de tout le monde. Et ce qui compte, c'est d'être là, c'est de résister, c'est d'être présent, c'est de pouvoir échanger. Et ça, c'est important, parce que c'est le nombre qui fera que. Et il faut absolument que tout le monde sorte de l'anonymat. Il faut absolument avoir un peu de courage. Il faut retrouver le courage.
D'accord. Ah ouais, non, mais ça, c'est important de se lire. Donc c'est pas un mouvement politique, parce que moi, en tant que C3V, je suis un peu gêné, parce que en général on veut pas donner la parole à des représentants de partis politiques. Donc vous représentez, moi c'est comme ça que je l'ai compris, un mouvement d'idées, un mouvement bon, à travers cette répétition du CNR, hein, c'est génial, mais voilà. Mais quand vous parlez de, quand il y en a un d'entre vous qui a dit ouais, mais on aura le pouvoir, je me dis, attends, mais nous, on ne soutient pas un parti politique.
Alors quand j'ai dit ça, en fait, alors il y a deux aspects dans ton intervention. C'est d'abord parler politique. La politique, ce n'est pas un gros mot. La politique, c'est, à partir du moment où on vit en commun, on est obligé d'avoir une politique. La société ne se construit que comme ça. C'est très noble, la politique. C'est après... Voilà, ça doit le redevenir, en tout cas. Voilà, dans le sens étymologique, c'est très beau. C'est très, 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 très beau comme démarche. Ça veut dire qu'on se tourne vers les autres, qu'on travaille avec les autres, qu'on échange avec les autres. Et le fait de vouloir le pouvoir, lorsque j'ai dit qu'on aura le pouvoir, je parle du peuple, je parle de l'ensemble, oui, de tout le monde. Et ça dépasse même les gilets jaunes. Tout le monde a le droit de vivre en démocratie, tout le monde a le droit à la dignité et à la reconnaissance. Voilà, et puis il y a une façon de partager. Être en société, c'est partager, parce que c'est comme une grande famille. Ça doit être ça. Liberté, égalité, fraternité, ça veut dire quelque chose. L'humain au cœur, c'est exactement c'est des mots que Séverine a trouvés et qui traduisent vraiment, en fait, notre démarche.
Oui.
Voilà. Oui, en fait, c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure. Là, c'est vrai qu'il y a des gens que ça a choqué et que ça choque encore, d'ailleurs, maintenant, de dire il y a des gens de tous les horizons politiques, mais en fait, ce qu'on voit, nous, c'est ce qu'on a en commun, tous, ce qui fait vraiment consensus, quel que soit ce qu'on a vécu avant, parce que c'était un peu normal qu'il y ait un mouvement comme ça. Il y a des gens de diverses... on venait un peu chacun de notre... on avait chacun notre vécu politique ou aucun vécu. Hein. Il y a beaucoup d'abstentionnistes et tout. Des gens, a priori, qu'on ne pouvait pas imaginer mettre ensemble. Et justement, c'est ça la magie du truc, et c'est ce qui fait, à mon avis, que le pouvoir est vraiment hargneux et acharné contre nous. C'est qu'il s'aperçoit qu'il y a des gens originaires de plusieurs de mouvements complètement divers et qu'on pourrait croire antagonistes, et qui se retrouvent ensemble sur un socle commun. Là, je trouve que c'est bien, et c'est ça qui leur fait peur. Et justement, enfonçant le clou, et c'est ça qui est bien. Ah, c'est mon avis, hein. Je pense.
Moi, comme Hugues, j'ai fait du syndicalisme pendant très longtemps, et j'ai bien compris au départ que c'était un rejet pour les tout premiers temps de tout ce qui était institutionnel, y compris syndicat, partis politiques, etc. Et il n'empêche que moi, j'ai mis mon mouchoir, j'ai mis ça dans ma poche avec le mouchoir par-dessus, et je me suis dit, peu importe ce qu'on pourrait penser de moi, je veux savoir pourquoi les gens sont là, et je veux les connaître, parce qu'ils ont quelque chose à dire, ils sont là dehors, on ne peut pas être indifférent. Et donc j'ai fait abstraction de tout mon passé pour essayer de les comprendre. Et j'ai retiré de ça une richesse phénoménale.
Attends, je ne sais pas. Effectivement, pour moi, les Gilets jaunes, ça a été une agora terrible. C'était super. c'est-à-dire un lieu effectivement d'échange d'idées de dans tous les sens. Et c'était pas, alors effectivement on a essayé de diaboliser en disant c'est des fachos, mais vous montrez bien que c'est pas le cas.
Non, pas du tout. Oui, c'était vraiment une agora, c'est ça. Et puis, le fait d'échanger comme ça, ça a été très, très enrichissant. Moi, comme je vous l'ai dit dans ma présentation, j'ai plus appris depuis que ce mouvement est en marche. J'ai plus appris, là, en marche.
Non, en marche, non.
J'ai plus appris, oui, que pendant plus de 40 ans sur le monde qui m'entoure. C'était vraiment... Voilà, des gens de tous bords politiques, effectivement, mais très, très enrichissant.
Et autrement, il y a des gens, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des trucs qui, je ne sais pas.
Je ne sais pas, moi, alors j'ai pas l'ordinateur ce soir disponible. Je ne sais pas, Kamel, est-ce qu'il vous a renvoyé des trucs, est-ce que, je ne sais pas.
Non, il n'y a pas vraiment de questions. C'était enfin tu les as posées, Claude.
Ouais.
Vu, c'était sur l'image des gilets jaunes, voilà, l'image des gilets jaunes dans les médias. Est-ce que les gilets jaunes souffrent de l'image qu'ils véhiculent dans les médias?
Oui.
Oui, on en souffre, mais en même temps, c'est comme toutes les souffrances. À un moment donné, il faut savoir en tirer la force. Je pense que oui, on en a beaucoup souffert, on en souffre encore. Mais y a aussi, finalement, à un moment donné, il faut prendre un petit peu les choses avec un peu de recul. Il faut se dire que finalement, de toute façon, on ne changera pas les gens d'en face, on ne changera pas les sourds. Ils sont dans une autre logique que nous. Et on est quand même 66 millions d'habitants en France, et c'est pas 66 millions de privilégiés. Il faut simplement que, justement, ces millions de personnes comprennent que nous sommes là tous ensemble pour vivre heureux, avec la possibilité d'être soignés normalement, de vivre normalement, d'avoir un emploi, d'avoir un niveau de vie suffisant, d'avoir une éducation suffisante, et en fait c'est ensemble qu'on peut arriver à décider pour retrouver cette notion de fraternité, d'entraide. Il faut pas se renfermer sur le désespoir. Je pense encore une fois tout à l'heure, Séverine a parlé d'Anne Beaumanoir. Je vous ai parlé de Claude Alfandéry. Mince, quoi. Je veux dire, des gens comme ça qui ont risqué leur vie il y a quand même pas mal de décennies, et qui reviennent encore au combat aujourd'hui avec des mots très forts, avec des mots aussi qui sont placés dans le contexte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils parlent d'écologie, ce qui n'était pas le cas à leur époque, et ils en parlent. Mmh. Et ils en parlent très bien, avec des mots incroyables. Et en plus, en étant convaincu de devoir et de pouvoir faire quelque chose encore à leur âge. Alors, nom de Dieu, il faut absolument que tout le monde prenne conscience qu'on a tous une petite part d'action à avoir. Et puis, peu importe la réaction d'en face, peu importe, on s'en fout maintenant. On s'en fout. On les aura. Du moins, on les aura même pas. On s'en fiche. On veut simplement que la démocratie soit rétablie. Et la démocratie, c'est pas eux. Donc ça se fera sans eux.
Oui, moi je voulais dire, évidemment, on s'attendait, quand le mouvement a pris de l'ampleur, à ce que le pouvoir utilise tous ces chiens de garde médiatiques pour nous discréditer. Ils ont fait, on est surpris et tout. Et sauf que l'actualité nous a donné raison. Nous, il y a... Quand les copains des urgences étaient en grève depuis 6 mois, qu'est-ce qui était à leur côté? C'était bien les gilets jaunes. Et maintenant qu'il y a eu la crise du Covid et puis qu'on a vu l'état de délabrement de l'hôpital public, l'abandon complet de tous les services, hein, parce qu'il n'y a pas que le service des soignants, les services administratifs et tout, tous les services des hôpitaux sont dans un état de délabrement complètement anormal, complètement dingue, quoi. Et là, on peut répondre aux gens, bah oui, justement, quand il y avait la lutte des infirmières et des personnels, qu'est-ce qui était à leur côté? C'était bien les gilets jaunes. Donc, au bout du compte, l'actualité, elle nous donne raison. Et les gens qui réfléchissent vraiment et qui voient la situation, et parce qu'il y a quand même eu beaucoup de gens qui ont eu la trouille, hein, de cette histoire de Covid, ils s'aperçoivent que, bon, ce qu'on disait, c'était quand même pas des paroles en l'air, et on a vraiment l'exemple, là. Cette histoire du Covid, je trouve que c'est...
flagrant.
C'est flagrant, oui. Mmh. C'est vraiment l'exemple.
Mmh. C'est une autre question. N'y a-t-il pas... N'y a-t-il pas autant de revendications que de gilets jaunes?
Non. En tout cas, il y a beaucoup de revendications parce que il y a un sacré travail, il y a une sacrée reconstruction à faire vu comment ils nous ont tout arraché depuis plusieurs décennies là au niveau des services publics, notamment de la démocratie, etc. Donc, il y a beaucoup de revendications. Pour autant, on retrouve toujours les mêmes. Et les quatre qui arrivent en premier, c'est toujours le renforcement des services publics, la démocratie et la justice sociale et fiscale, et l'écologie aussi,
oui.
Puisque fin du monde, fin du mois, même combat, apparemment ce n'était pas qu'un vain slogan dans les manifestations. Et beaucoup de gilets jaunes ont fait le lien entre toutes ces causes qui sont liées les unes aux autres.
Merci pour votre témoignage.
Merci à vous.
Bravo, le programme est super.
Donc le programme, oui, je ne sais pas si vous voulez qu'on... Enfin, il est disponible, hein, si vous voulez le... D'ailleurs, on pourrait peut-être donner notre adresse e-mail, si certains veulent nous écrire pour nous poser des questions ou nous demander le programme, il n'y a pas de souci. C'est GJ, comme les premières lettres de Gilets jaunes, gj189@gmail.com.
Eh bien, c'est dommage que ce soit Gmail, mais bon.
Pardon?
C'est dommage que ce soit Gmail, mais voilà.
Ah oui. oui, voilà, tout ça fait partie des choses qu'il faut qu'on apprenne à changer.
Bien sûr, non, mais bien sûr, voilà. Bon, mais écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas si Eliane, t'as prévu un mot de fin ou pas. Mais sinon, à vous remercier parce que c'était très très intéressant. Et alors, cet échange, cette conférence à trois voix, ces témoignages, c'est une manière très sensible d'aborder les choses. Moi, ça m'a bien plu. Je sais pas après.
Mais merci à vous,
nous avoir donné la parole. Oui.
Et ça va, on nous a bien entendu quand même.
Oui, on vous a bien entendu. Merci encore pour votre discours. Voilà, c'était très intéressant. Merci beaucoup.
Bien.
Merci.
Bonsoir.
Bonsoir.